Oui, j'étais faible mentalement. Oui, j'étais nulle. Oui, quand je loupais une compétition et qu'il me faisait la gueule, c'était complètement normal. Quand il me mettait plus bas que terre, bah, c'était complètement normal. C'est que je le méritais. Quand il me demandait toujours plus à l'entraînement, c'était normal aussi. Donc oui, il y a une forme de violence qui se met en place. Mais en tout cas, moi, j'en avais absolument pas conscience à cette période-là parce que j'étais jeune et aussi parce que c'est des thématiques qu'on n'abordait absolument pas. Personne n'était là pour me dire, mais en fait, Emma, ce que tu vis, c'est pas normal.
Salut, c'est Cléo et bienvenue sur Championne du Monde, le podcast des femmes qui construisent le sport de demain. Alors, pas besoin d'être championne du monde pour passer ici. Toutes les deux semaines, on vous fait découvrir la voix de femmes qui incarnent le sport et font bouger les lignes. Athlètes, journalistes, médecins ou même ta mère, fan de Kevin Mayer, on part à la rencontre de nanas qui déchirent et surtout toujours plus badass que la plus badass de tes copines. Bonne écoute! Lors de la Convention nationale de prévention des violences dans le sport en décembre dernier, la cellule ministérielle a recensé plus de 600 signalements de violences sexuelles. Un chiffre terrible et sûrement bien en dessous de la réalité, qui témoigne d'un réel problème dans le milieu. Sur la planète, un sportif sur 7 serait victime d'une forme de violence sexuelle avant l'âge de 18 ans, peu importe le niveau de compétition et le pays où ces faits sont déplorés. Ces dernières années, de nombreuses affaires ont éclaté au grand jour, comme celle de Larry Nassar, ancien médecin de l'équipe olympique américaine de gymnastique, ayant fait plus de 350 victimes. Et même en France, Sarah Abitbol, qui dénonçait les violences sexuelles subies par son ancien entraîneur, entraînant par la même occasion une libération de la parole dans un grand nombre de fédérations sur des agressions similaires. Malheureusement, malgré cette libération de la parole progressive, il est encore très compliqué pour des athlètes, particulièrement dans le haut niveau, de pouvoir s'exprimer sur le sujet sans craindre des retombées directes et violentes sur leur carrière. Emma Oudiou, coureuse de 3000 steeples en équipe de France, a eu le courage de prendre la parole en 2018 et de dénoncer ce qui lui était arrivé. Elle nous a confié dans cet épisode son parcours dans le sport de haut niveau jusqu'à son retrait il y a quelques mois, et les mécanismes d'emprise qui existent dans l'univers du sport et qui découlent, souvent, sur divers types de violences. Merci à toi, Emma, pour ta liberté de parole, car il est important d'en parler pour faire bouger les choses. Salut Emma!
Salut Cléo!
Comment tu vas?
Ça va très bien, merci, et toi?
Eh ben écoute, je suis très contente de t'accueillir chez moi pour enregistrer cet épisode sur le petit canapé avec les voisins curieux qui passent par la fenêtre.
Merci pour ton invitation.
Bah écoute, c'est avec grand plaisir et c'est vrai que, bon, on va pas spoiler, mais c'est pour un sujet aussi qui est important, un sujet qui est pas forcément très marrant,
ouais.
Un sujet sur lequel il est important de parler et d'ouvrir la parole. Et je te remercie d'être là et de parler de ça. Déjà, moi, effectivement, j'aimerais bien commencer, on va rentrer dans le vif du sujet directement, avec un chiffre qui est 14%. 14% des sportifs et des sportives qui ont subi des violences sexuelles avant 18 ans, ce qui représente à peu près une personne sur 7. Et 30%, donc ce chiffre augmente à 30% chez les sportifs internationaux. Moi j'aimerais bien déjà dans un premier temps, donc je lance un peu ce chiffre-là. Moi j'aimerais bien que tu nous racontes ton histoire déjà, dans un premier temps. Qui tu es, d'où tu viens, quel sport tu pratiquais et toute l'histoire qui en a découlé.
Ok. Donc je m'appelle Emma Oudiou, j'ai fait de l'athlétisme de haut niveau pendant 10 ans. Donc je crois que j'ai fait 10 sélections en équipe de France, si je ne dis pas de bêtises. J'étais spécialiste du demi-fond et plus particulièrement du 3000 mètres steeple. J'ai fait plusieurs médailles internationales sur cette discipline. Et je me suis très vite rendu compte pendant mon parcours qu'il y avait plein de choses qui, selon moi, étaient complètement anormales, dont les violences sexuelles. Et malheureusement, j'ai fait moi-même l'expérience de violences sexuelles quand j'avais 19 ans, de la part d'un entraîneur de l'équipe de France. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marquée. Et sur le coup, je ne me rendais pas forcément compte que c'était des violences sexuelles. C'était en 2014. Je porte plainte que 4 ans après, en 2018, parce que c'est qu'en 2018 que je me rends compte de la gravité de ce que j'ai subi. Et donc, suite à ça, je me dis, mais je ne suis pas la seule à vivre tout ça. J'en entendais parler autour de moi. Et puis, comme toi, je suis allée voir un petit peu les chiffres. Je suis allée m'éduquer sur la question. Mmh. Et les chiffres sont affolants. Et donc maintenant, mon combat, c'est d'alerter sur les violences sexuelles et de faire en sorte qu'il y ait le moins d'athlètes possible qui les subissent.
On reviendra un peu sur les chiffres, parce qu'effectivement, tu le disais, c'est catastrophique. Enfin, ouais, il y a vraiment un nombre de recensements des violences qui est juste démentiel. Pour revenir un petit peu sur ton parcours, comment t'es arrivée toi à l'athlée ? Est-ce que le sport de haut niveau c'était quelque chose qui t'attirait quand t'étais petite ? Comment t'es rentrée, on va dire, dans vraiment ce circuit du sport de haut niveau ?
Alors ça m'a toujours attirée parce que j'avais des grands-parents surtout qui regardaient beaucoup l'athlée à la télé. Donc j'ai baigné là-dedans quand j'étais plus jeune. J'ai commencé l'athlée un peu comme ça, par hasard, on va dire. Je bougeais un peu partout. Mes parents se sont dit, bon, bah, on va l'inscrire dans un sport. Donc, ça a été l'athlée. Et au final, ça a plutôt bien fonctionné. On m'a dit très tôt que j'avais des belles capacités pour faire de belles choses. Et donc, bah, de fil en aiguille, j'ai commencé dans un club à Fontainebleau. Après, j'ai intégré le sport-études. Après, j'ai intégré le pôle espoir. Après, j'ai fait mes premières sélections en équipe de France, etc. etc. Donc, j'ai commencé par là.
Ok. Et comment on rentre, en fait, finalement, parce qu'on se dit, quelle est la différence entre faire du sport et arriver dans vraiment le sport de haut niveau, être encadré, comment on passe de ça à ça? Et est-ce que tu t'en es rendu compte, finalement, que tu passais peut-être d'une pratique amateur à une pratique de haut niveau professionnel, plus ou moins?
Ouais, bah en fait, c'est vrai que j'ai quand même toujours eu ce truc d'excellence tout de suite. Quand j'ai commencé, je savais au fond de moi que très vite les objectifs ça allait être l'équipe de France, les sélections internationales, etc. Parce que je pense que j'ai été éduquée comme ça, toujours dans il faut faire mieux, il faut être excellente, etc. Et la chance, en tout cas l'opportunité que j'ai eue, c'est que j'ai commencé à Fontainebleau, et à Fontainebleau déjà il y avait toutes les structures de sport de haut niveau. Ouais. J'ai eu la chance en fait que ma famille vive déjà sur Fontainebleau, et donc ça a été plus ou moins un hasard. Peut-être que si le sport études il avait été à Marseille, je dis n'importe quoi, ça se serait pas fait aussi facilement. Mais là au final j'ai fait jusqu'à minime avec un coach, bah forcément amateur, parce qu'en minime on ne devient pas professionnel. Mmh. Après je passe en cadette avec un coach qui est déjà dans le haut niveau, et donc là bah ça se fait naturellement, et vu que j'avais des capacités, bah voilà, ça a commencé comme ça a pris comme ça, le sport de haut niveau.
Ok, et tu parles des coachs, qui est quand même aussi un gros sujet, malheureusement. heureusement ou malheureusement, là en l'occurrence, ouais. Malheureusement, comment dans des structures comme ça, quand on rentre du coup dans le processus de sportif ou sportif de haut niveau, on te donne un coach. Alors, je ne sais pas comment dire, on t'impose aussi un coach, ou est-ce que tu le choisis, ou est-ce qu'on te dit, ok, c'est lui qui va t'entraîner, tu n'as pas le choix, même si potentiellement tu ne t'entends pas avec cette personne. Comment ça se passe ?
Alors, il n'y a pas énormément de coachs de haut niveau en France, dans l'athlée, donc on n'a pas un choix qui est hyper large. Et là, pour le coup, sur cette structure-là, donc à Fontainebleau, il n'y avait qu'un seul coach, pardon, de demi-fond. Mmh. Et donc, bah, la question ne se posait pas, c'était lui, et puis c'est tout. Et en général, dans l'athlée, ça se passe comme ça. On n'a pas énormément de choix. On va dans une structure parce qu'on a envie de performer. Il y a quelques structures en France, ça va être soit un choix géographique, soit un choix plus ou moins d'affinité avec le coach. Mais la question de l'affinité, je trouve qu'elle ne se pose pas trop.
Oui, on te demande pas ton avis, en fait, finalement, en tant que sportive.
Pas trop. Ouais.
Donc, comment ça se passe quand on te dit, OK, bon, bah, t'as pas le choix, en fait, finalement, il y a qu'un coach sur deux demi-fonds, ce sera lui. Toi, est-ce que tu trouves ça normal, en tant que sportive, finalement, qu'on t'impose quelqu'un ?
En fait, on n'a pas trop le choix. Parce que il n'y a pas énormément de coachs de haut niveau en France. Ouais. En plus, c'est énormément dans la grande majorité des coachs masculins. Donc oui, on nous l'impose. Bien sûr que ce serait mieux qu'on ait plus de choix, parce que ça permettrait de rendre les athlètes beaucoup plus libres et beaucoup plus décisionnaires de leur carrière. Donc ce serait top, mais de là à ce que ça se fasse, je pense que ça va être assez long.
Donc en fait, aussi ce que tu dis, c'est comme tu ne choisis pas les personnes avec qui tu t'entraînes, il y a aussi une sorte de rapport de domination qui s'établit. C'est-à-dire que comme tu ne, voilà, on t'impose quelqu'un,
ouais.
Tu es sous l'égide
ouais.
de ton coach. Comment on gère ces rapports-là et est-ce qu'on s'en rend compte en fait aussi au début quand on est sportive ?
Alors pas du tout. Enfin en tout cas moi dans mon cas je m'en suis pas du tout rendu compte. Et c'est clair qu'il y a ce rapport de domination qui apparaît hyper rapidement.
Ouais.
Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on arrive dans ces structures, en général, on a 15-16 ans, donc on est quand même jeune. Moi, j'avais ma famille qui était quand même aux alentours à Fontainebleau, mais j'avais plein de copines d'entraînement qui étaient séparées de leur famille à 15-16 ans. Et donc, le coach devient vraiment cette figure d'autorité, une figure presque paternelle. Ouais, totalement. Et tout, on voyait beaucoup plus notre coach que nos propres parents, quoi. Et donc, ça crée ouais, un rapport qui est hyper particulier et qui, selon moi, n'est pas toujours sain et qui peut très vite dériver.
Comment ça s'est passé, toi, avec ton coach, du coup ? Quels étaient... Tu parles de ce rapport-là et... Comment s'est passé, déjà pendant combien de temps ça, il a été ton coach et t'as changé je crois aussi
ouais,
de coach.
C'est ça. Il a été mon coach pendant 6-7 ans je dirais à peu près. Et donc comment ça s'est passé, au début j'étais hyper, je l'adorais vraiment ce coach, je l'adorais, hyper sympa, c'est quelqu'un qui est très charismatique, voilà, il a de très belles compétences aussi en tant que coach, ça il faut le reconnaître, j'ai beaucoup progressé avec lui. Et en plus de ça, dans le haut niveau, encore une fois, on voit beaucoup le coach, on partage des choses qui sont hyper fortes, que ce soit dans le positif comme dans le négatif. On part en stage à l'autre bout du monde avec le coach, avec le groupe d'entraînement. Et donc, moi, j'avais vraiment cette... je le voyais comme un deuxième papa, quoi.
Ouais.
J'avais ce truc où, limite, je l'admirais. En plus de ça, c'était quelqu'un qui... Dans le milieu du sport, dans le milieu universitaire, était hyper respecté aussi. C'est quelqu'un qui en imposait, qui en impose toujours. Et donc, il y a ce rapport-là très vite qui s'est créé entre lui et moi, mais aussi entre lui et les autres athlètes. Et en fait, le problème, c'est que le cadre, il est très vite dépassé. C'est-à-dire que il va y avoir des remarques sur... Alors moi, ça allait, parce que j'avais pas... par exemple, sur la thématique du poids, j'ai jamais été trop embêtée, parce que je suis de nature hyper fine, et je prends pas de poids facilement. Mais c'est vrai qu'avec d'autres athlètes, il pouvait y avoir cette volonté de contrôle du poids qui devient rapidement problématique. Il y avait, moi, le truc sur lequel il appuyait hyper souvent, c'était « Ouais, Emma, t'as pas suffisamment de mental, tu réfléchis trop, limite, t'es trop intelligente pour le sport de haut niveau, faut pas que tu réfléchisses autant et tout, machin.
Okay. »
Et donc, je pense que ça arrange beaucoup de monde de dire à des athlètes qui ont un peu de réflexion que « Oui, tu réfléchis trop, arrête de réfléchir.
»
Et donc, moi, c'était ça, c'était « T'as pas assez de mental, en compétition, tu stresses trop, machin, psychologiquement, t'es trop faible et tout. » Enfin, c'était vraiment des trucs. Et quand on entend ça à partir de ses 15-16 ans jusqu'à... Mais c'était juste... J'ai dû partir, je devais avoir 21-22 ans, je ne me rappelle plus exactement. Quand j'entends ça pendant des années, dans ces périodes-là, dans ces années-là, qui sont des années hyper importantes, qui sont des années de construction, c'est hyper violent, quoi.
C'est une sorte d'harcèlement moral.
Ouais, complètement. Et c'est hyper dur. Mais vu que je l'admirais, que pour moi c'était un dieu, un demi-dieu, je prenais ce qu'il me disait pour argent comptant. Donc j'étais faible mentalement. Oui, j'étais nulle. Oui, quand je loupais une compétition et qu'il me faisait la gueule, c'était complètement normal. Quand il me mettait plus bas que terre, c'était complètement normal. Je le méritais. Quand il me demandait toujours plus à l'entraînement, c'était normal aussi. Il y a une forme de violence qui se met en place, mais en tout cas, moi, j'en avais absolument pas conscience à cette période-là, parce que j'étais jeune et aussi parce que c'est des thématiques qu'on n'abordait absolument pas. Personne n'était là pour me dire « Mais en fait, Emma, ce que tu vis, c'est pas normal.
» En fait, le souci, dans ce que tu dis, dans ce que j'entends, c'est qu'en fait, finalement, une personne est tout ton monde.
Totalement.
Tout ce qu'une personne te dit, finalement, c'est forcément la vérité.
Ouais, totalement.
Et il n'y a pas de recul d'autres personnes. Et d'ailleurs, ça, c'est une question, mais il n'y avait pas d'autres personnes au sein du club aussi qui pouvaient intervenir à certains moments, qui pouvaient avoir un recul nécessaire ?
Non, il y avait personne parce que en fait, donc bien sûr que le coach a une forme de responsabilité dans ce qu'il faisait, mais c'est tout un système autour qui légitime complètement son comportement. Ouais. C'est-à-dire que, mais c'est normal qu'il soit comme ça, c'est parce que l'athlétisme c'est difficile, le demi-fond, en plus en demi-fond on a vachement cette culture de la difficulté, de la souffrance et limite du plaisir dans la souffrance. Oui mais Emma, si tu veux y arriver, si tu veux aller aux Jeux Olympiques un jour, il faut accepter tout ça. Donc moi j'étais dans cette acceptation et les copines de l'entraînement c'était exactement pareil aussi. On avait à peu près tout le même âge, on avait les mêmes objectifs, donc tout le monde acceptait. Et il n'y avait vraiment pas ce recul de qui que ce soit pour dire, mais en fait, stop, là, c'est pas normal.
Vous en discutiez entre vous, si tu parles de tes amis d'entraînement, est-ce que c'est quelque chose dont, entre vous, vous pouviez vous dire quand même, ok, bon là, aujourd'hui, il a un peu abusé, ou finalement, vous étiez dans une sorte de déni?
C'était un peu des deux. On essayait de se soutenir les unes les autres, mais on remettait jamais vraiment la parole du coach en question. Ou alors des fois entre nous, parce que ce qu'il aimait bien faire aussi, ce coach, c'était quand il y avait eu des mauvais résultats à une compétition. En fait, il nous mettait toutes et tous en cercle. Et il nous défonçait.
D'accord.
Je vais pas en rigoler, mais en gros, il nous prenait athlète par athlète. Et puis, il nous disait nos quatre vérités devant tout le monde, quoi. Donc, c'était un peu de
l'humiliation
publique.
Ouais, d'accord.
Et on en prenait chacune pour notre grade. Et donc, c'était juste avant le footing. Et après, on partait en footing pour s'échauffer pour la séance. Et puis, en footing, on débriefait. On se disait, ouais, mais là, quand même, il a abusé et tout, machin. Mais en fait, ça se faisait de manière hyper ponctuelle. On disait que sur ça, il avait abusé, mais la forme d'emprise qu'il avait sur nous, ça, on a mis du temps à s'en rendre compte. Et je pense qu'on s'en est rendu compte petit à petit. Il y a des filles qui sont parties du groupe d'entraînement. Moi, je suis partie aussi. Et c'est à ce moment-là, mais il a fallu attendre qu'on ait à peu près une vingtaine d'années, voire un peu plus, pour qu'on se rende compte que ça n'allait pas et qu'il fallait qu'on parte.
C'est quand même grave, finalement, c'est comme tu dis, de légitimer et d'adouber comme ça, en fait, des figures. J'imagine qu'en plus, quand t'es parent, forcément, tu te dis aussi que ton enfant est entre de bonnes mains, parce que c'est des gens qui sont professionnels. L'encadrement, la fédération, j'imagine aussi, c'est... en fait, finalement, tout le monde adoube ces personnes-là. Donc, c'est vrai que j'imagine que toi, en tant qu'athlète, tu ne peux pas remettre en cause ça non plus.
Ouais, non.
Parce que tout le monde autour de toi, finalement, a une sorte de valider cette personne.
Ouais, totalement. Non, on n'a pas l'espace de critiquer et l'esprit critique, de toute façon, dans le sport, c'est quelque chose qui est complètement... qui est très mal vu, quoi. C'est hyper mal vu de remettre une parole en cause, de ne pas être d'accord, de ne pas tout donner pour la performance. C'est hyper mal vu. De mettre des limites, c'est hyper mal vu, quoi.
Ouais, ça me fait rebondir sur ce point-là, qui est justement, en fait, cette espèce de glorification de la difficulté dans le sport. Mm-hmm. Et qui, du coup, amène ce que tu disais, en fait. C'est quand vous ne faisiez pas de bons résultats, que vous n'étiez pas... vous n'aviez pas assez de mental, etc. C'était du coup, de l'humiliation. Mm-hmm. C'était des mots durs. C'est on va t'attaquer toi en tant que personne aussi. On va attaquer toi, ton physique. Mm-hmm. Et tout ça, ça fait partie de la culture du sport. C'est quelque chose qu'on a complètement accepté depuis des années, en fait, dans la culture du sport.
Ouais, et puis au-delà de l'accepter, c'est comme tu as utilisé le terme de glorification, mais c'est totalement ça. C'est-à-dire que le nombre de pubs, d'équipementiers sportifs qui mettent des athlètes qui s'arrachent et tout, machin, qui donnent leur vie pour la perf, mais moi je trouve qu'il faut quand même se poser des questions. Et je me rappelle que quand le coach me disait « Oui, Emma, toi, t'as pas assez de mental et tout machin », je prenais en exemple des athlètes dans le groupe d'entraînement qui étaient totalement capables de déconnecter, de se dissocier, faut employer les termes aussi, de se dissocier pour accepter une douleur, mais une douleur qui est terrible. Donc oui, pour progresser, on est obligé de passer par une certaine difficulté, je suis totalement d'accord. Mais par contre, là où je suis pas du tout d'accord, c'est qu'on n'interroge jamais cette difficulté-là et que la souffrance n'est aucune limite. Ces limites, plus on souffre, et mieux c'est. Plus on souffre, plus on va y arriver. Plus on souffre, plus on est courageux, etc. Mais moi, je pense qu'il y a des limites. Je pense que ça peut devenir hyper malsain et complètement destructeur pour les athlètes. Et ça encore, c'est un discours qu'on n'entend pas du tout.
T'as utilisé le terme dissocié qui est hyper fort. Est-ce que t'as eu l'impression pendant toute ta carrière sportive que t'étais une autre Emma?
Ah oui. J'étais une autre Emma quand je courais et j'avais vraiment l'impression de me dissocier. Et d'ailleurs, c'était à double tranchant. Et maintenant, j'ai le recul nécessaire pour me le dire et j'espère que ça va pouvoir aider ce que je dis là. Mais en fait, je me rappelle que pendant mes compétitions, il y avait un moment où la douleur a été tellement extrême que je sortais de mon corps, en fait. Et c'était vraiment à double tranchant. C'était soit du coup, j'arrivais plus à sentir mes jambes, il se passait plus rien dans mes jambes, et du coup, je faisais des résultats qui n'étaient pas à la hauteur de ce que j'espérais. Soit au contraire, ça me permettait de plus sentir la douleur. Et donc... d'aller toujours plus loin, et donc de faire des super perfs. Et c'était vraiment, vraiment à double tranchant, et j'avais l'impression que cette dissociation-là, je ne la contrôlais pas, et je pense que c'est hyper dangereux, et je pense qu'encore une fois, il y a beaucoup d'athlètes qui se dissocient, mais qui ne s'en rendent pas forcément compte.
En gros, là, c'est vrai que pour le moment, on parle surtout de façon morale, de tous les troubles que ça peut aussi entraîner psychologiquement après derrière. Toi, tu l'as vu sur toi, c'est quelque chose qui a eu un impact ?
Totalement. Totalement. Ça, je l'ai pas dit de manière officielle encore sur mes réseaux sociaux, mais j'ai fait une énorme dépression en 2020. J'ai fait une dépression sévère. Je suis allée voir une psychiatre qui m'a dit, mais là, il faut arrêter parce que vous êtes en dépression sévère, vous êtes en train de dépérir. Donc après tout le confinement et tout, ça a été hyper difficile. Et maintenant, avec du recul, je me dis, mais comment j'ai fait pour accepter tout ça ? Comment j'ai fait ? Pourquoi personne ne s'est rendu compte de la souffrance ? Ce que c'est pas normal, c'est pas normal. Et j'ai eu une dépression, j'ai eu des troubles du comportement alimentaire. C'est des choses qui sont hyper graves, c'est hyper grave. Et c'est pas ça m'énerve ce discours de se dire oui, mais c'est normal, c'est pour la performance. Si tu veux y arriver, t'es obligé de passer par là. Et en fait, les plus forts, c'est ceux qui arriveront à passer au-dessus de tout ça, mais totalement. Mmh. Mais c'est n'importe quoi. Ça crée des troubles, ça a des séquelles pour plusieurs années, quoi. Donc c'est terrible, c'est absolument pas normal. Et je suis là dans ton podcast et je suis là pour les réseaux pour dire, en fait, il y a des limites, il doit y avoir des limites.
Ouais, et clairement tu incombes cette responsabilité au, je vais faire une généralité, mais au sport de haut niveau.
Totalement. Totalement. Pour moi, le sport de haut niveau est responsable de tout ça. Bien évidemment que j'ai une part de responsabilité. Les questions, quand j'étais en dépression et que j'ai fait ma thérapie, ça a été de se dire pourquoi j'ai accepté tout ça, pourquoi je suis restée dans ce milieu-là. Mais je pense que la grande part de responsabilité, c'est le sport de haut niveau, c'est les encadrants, c'est tout ce milieu-là qui est au-delà des paillettes et de la gloire qu'on voit sur les réseaux ou à la télé. Il y a une réalité, c'est ça. Il y a ce milieu qui peut être hyper violent et pour beaucoup de monde.
Là, c'est vrai qu'on parle de l'aspect psychologique qui est vraiment qui est hyper important.
Ouais.
Toi, on expliquait tout à l'heure qu'effectivement, déjà, ça a été des violences psychologiques de la part de ton entraîneur qui, à un moment donné, ont dérivé vers de la violence sexuelle. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce qui s'est passé et comment on passe d'une violence psychologique à une violence sexuelle et finalement, dans un premier temps, qui a été presque acceptée, parce que je pense que tu t'es pas forcément rendu compte de ce qui se passait sur le moment.
Ouais. Alors, il faut bien distinguer l'entraîneur que j'avais donc à Fontainebleau et l'entraîneur donc qui était un tout autre entraîneur qui était l'entraîneur de la Fédération française d'athlétisme. C'était deux personnes différentes. Et donc en fait l'entraîneur de la Fédé d'athlétisme, ce qui est intéressant maintenant avec du recul, c'est que c'est quelqu'un on m'a toujours dit ouais Emma faut pas trop s'approcher de lui quoi, il est un peu chelou, il peut être un peu tactile, machin, donc bon. On s'approche pas trop lui. Et en fait, ce qui se passe, c'est que donc c'était pendant mes premiers championnats du monde en 2014, c'était aux États-Unis. J'avais pas mon entraîneur habituel de Fontainebleau qui était avec moi. On était envoyés à l'autre bout du monde pour faire cette compétition-là. Et donc, c'est ce coach national qui nous encadrait là-bas. Et en fait, donc ouais, un mec un peu tactile, un peu chelou. On savait pas trop comment se comporter avec lui. Ouais, il était bizarre ce mec. Et en fait, je pense que toute la violence que j'ai subies avant dans mon parcours de sportif de haut niveau. Donc, comme tu le disais, les violences psychologiques, la violence physique avec des entraînements qui sont hyper durs, on en demande toujours plus à notre corps. Tout ça a fait que ça a brouillé mes repères. Ouais,
les limites.
Et les limites, exactement. Et donc, la limite de qu'est-ce que j'accepte de faire subir à mon corps ou pas, bah, elles étaient pas là. Elles étaient complètement absentes parce que ces limites-là, on doit toujours les repousser. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'en 2014, il a donc ce monsieur-là un comportement qui est totalement déplacé. Il m'agresse, en fait. Et sur le coup, j'ai ce qu'on appelle. Je suis. Alors, c'est pas pétrifié le mot, c'est je suis complètement.
Tétanisée.
Et voilà, je suis complètement tétanisée. Et je peux rien faire. Et donc, il se passe tout ça. Et heureusement, en fait, j'avais une amie de l'équipe de France qui a été témoin de certaines choses. Qui, après la compétition, m'a dit « Mais Emma, là, ce qui s'est passé, c'est pas du tout, c'est pas normal, quoi. » Et je dis « Bah ouais, je sais que c'est pas normal. » Mais à ce moment-là, jamais de la vie, j'aurais mis le terme d'agression sexuelle sur ce qui s'était passé. Mmh. Et elle me dit « C'est pas
tu
normal. »
Tu minimisais.
Ouais, je sais pas si je minimisais, mais je savais pas.
D'accord.
Je savais pas ce qui s'était passé. Et elle me dit « Ouais, Emma, il faudrait peut-être que t'en parles donc au coach de Fontainebleau. Mmh. » Je dis ouais, donc j'envoie un mail à mon vrai coach. Mmh. Et je dis bah voilà ce qui s'est passé. Je me sens pas bien. J'avais fait une course qui était catastrophique d'ailleurs parce que ça s'est passé pendant l'échauffement de ma course. Et donc forcément pendant la course j'ai été complètement perturbée et tout ça s'est pas bien passé du tout. Et donc j'ai écrit un mail et tout et à mon retour en France. On en discute un petit peu et lui prend la décision d'appeler le coach national et de lui dire bah voilà de lui demander ce qui s'est passé. Mmh. Et le coach national bien sûr dit que j'ai mal interprété les gestes et tout nanan. Il y a une autre personne qui avait été mise au courant à la Fédé, donc qui était en gros il y avait deux coachs nationaux qui s'occupaient du demi-fond, ce coach qui m'a agressée et une autre femme et je sais que ces deux personnes là ont été averties.
D'accord.
Et voilà, et moi, j'ai pas été au courant de ce qui s'est passé plus de choses ou quoi, et ça s'est arrêté là, quoi.
D'accord, c'est vraiment, en fait, y a pas eu de... T'as jamais été au courant, finalement, de s'il y avait eu une enquête qui avait été menée, c'est-à-dire que juste les personnes ont parlé entre eux,
ouais.
et voilà.
Et voilà, ça a été mal interprété, et voilà. Je sais que mon coach de Fontainebleau a demandé à ce que le coach national, voilà, pendant les stages, pendant les compétitions, on ait le moins de rapports possible, mais toujours est-il que pendant des années après, à savoir bah, pendant 4 ans après, il était là pendant tous les stages nationaux, il était là pendant toutes les compétitions internationales, il était là. Donc c'est hyper c'est une deuxième violence en fait c'est une deuxième violence et c'est en 2018 que je me rends compte que j'arrive à caractériser réellement ce qui s'est passé et que je me décide à porter plainte et je fais ma petite enquête pour savoir mais qu'est-ce que mon coach de Fontainebleau a dit, qu'est-ce qui s'est passé dans la Fédé. Moi, je pensais vraiment que c'était remonté beaucoup plus haut.
Ouais, qu'il y avait une vraie prise en charge.
Voilà, exactement. Une vraie prise en charge, prise en compte de ce qui s'était passé. Mais non, c'est resté vraiment entre deux, trois personnes comme ça à la Fédé.
Ça a été étouffé, en fait.
Ouais. Et ça a été hyper dur, ça a été vraiment hyper dur. Moi, je l'ai vécu comme une trahison, tout ça. Mmh. Et quand je me suis rendu compte qu'il s'était rien passé, ouais, je me suis dit mais c'est pas possible.
Ouais. Du coup, pourquoi 4 ans tu décides de porter plainte ?
Alors donc en 2017, fin 2017, je crois, il y a eu tout le mouvement MeToo qui a permis à beaucoup de femmes de se rendre compte qu'est-ce que c'est qu'une agression sexuelle, qu'est-ce que c'est le consentement, qu'est-ce que c'est le viol, etc. Donc ça nous a beaucoup éduquées. Et en fait, quand je me suis rendu compte de ce que c'était qu'une agression sexuelle, je me suis dit ah ok, donc ce que j'ai vécu en 2014, ça s'appelle des agressions sexuelles. Ouais. Donc j'ai eu cette prise de conscience là. Et ensuite, on est reparti en stage début 2018, un nouveau stage national. Donc lui, il était encore là, le fameux coach national. Il y avait mon coach de Fontainebleau qui était là aussi. Et en fait, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est qu'il y a un responsable de la Fédé qui était là. Donc, qui à l'époque, je ne sais plus s'il fait toujours ça, mais en tout cas, il était responsable de la haute performance chez les jeunes.
Okay.
Et c'est un monsieur que je l'adore, ce monsieur-là. Il est très à l'écoute. Je l'adore. Très humain. C'est quelqu'un vraiment...
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Vraiment d'exceptionnel, je trouve. Et donc, il était là et c'est un monsieur en qui j'avais confiance. Et il y avait eu, donc, il y a eu un entraînement avec le coach national qui m'avait agressée. Et je me suis retrouvée quasiment en tête à tête avec lui. Donc, ça a fait ressurgir énormément de choses. Et j'étais vraiment, j'étais au bout du rouleau, j'étais vraiment pas bien. Et donc, je me dis, je vais en parler à l'encadrant de la haute performance jeune, je vais lui dire, mais voilà, en fait, ce qui s'est passé. J'ai eu envie de lui parler parce qu'il a eu une phrase pendant un repas. Il m'a dit, on est là pour vous écouter.
Okay.
Donc, je me suis dit...
Ça a ouvert la porte.
Ouais, totalement. Et j'avais aussi ma meilleure amie qui était aussi athlète de haut niveau, qui était là. J'en ai parlé. Je lui ai dit, mais Manon, qu'est-ce que je fais et tout. Elle m'a dit, Emma, faut que t'en parles et tout. Donc, je me suis dit, je vais en parler à cet encadrant-là. Et en fait, je pensais juste lui dire, mais il faut faire quelque chose par rapport au coach national et qu'il était au courant, quoi. J'étais sûre, j'étais persuadée qu'il était au courant. Et en fait, il était au courant de rien. Et je me dis, mais non. Donc, ça veut dire que c'est pas vraiment remonté. Ouais. Et en fait, quand je lui ai dit, il était hyper méga choqué. Et donc, ça m'a rassurée qu'il soit choqué. Je suis allée voir mon coach de Fontainebleau. J'espère qu'on arrive à suivre dans les trucs. Je suis allée voir mon coach de Fontainebleau. J'ai dit, mais en fait, l'info, elle est jamais remontée, quoi. Et il y a eu un truc, il faisait un peu comme s'il comprenait pas. En tout cas, moi, je l'ai interprété comme ça, comme s'il comprenait pas vraiment ce dont je lui parlais et tout. Et ça m'a profondément dérangée. Et donc, à partir de là, j'ai décidé de couper avec le coach de Fontainebleau, de partir ailleurs. Et j'ai appris que l'encadrant de la haute performance chez les jeunes a fait en sorte que ce coach national-là n'encadre plus du tout les jeunes. Donc, ça a eu quand même cet effet-là, et heureusement.
Donc, il y a quand même eu un effet positif. Mais
ouais.
Si tu n'avais pas parlé à cette personne...
Ce serait rien passé.
Ce serait absolument rien passé.
Il serait toujours dans l'encadrement, là, le coach national.
Et toi, d'un point de vue personnel, quand tu as déposé plainte,
ouais.
Effectivement, c'est devenu médiatique.
Totalement, oui.
En 2018.
Ouais.
Aussi parce que c'était assez rare, finalement, qu'on prenne la parole sur ce genre de sujet. Il y avait eu quelques prises de parole avant, mais de façon assez ponctuelle.
Mm-hmm.
Donc, du coup, ça a fait un peu de bruit à l'époque. Comment, toi, t'as vécu ça, sachant qu'en plus, tout le monde rejetait, enfin, tout le monde disait que c'était faux, que c'était des allégations qui n'étaient pas fondées, que presque on te disait folle,
ouais.
Un peu, il y a un peu de ça. Comment, toi, t'as vécu ça?
Alors, il y a tout le monde dans les médias et sur la scène publique qui disait que... Enfin, tout le monde. Il y avait en tout cas la défense de ce coach-là qui disait que oui, j'étais folle, j'étais une hystérique et tout. Mais ça, de toute façon, c'est souvent des accusations qu'on porte aux femmes qui osent parler. Mais d'un autre côté... Quand on voit le dossier et tout, bah, y avait des coachs nationaux qui disaient qu'il était trop tactile. Il y a des athlètes qui ont participé aussi et qui ont dit bah voilà, il ne s'est pas comporté correctement avec moi. Mais ça n'a jamais été porté publiquement parce que bah, ça dérange en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que quand je porte plainte, donc il y a un journaliste du Monde qui fait un travail formidable aussi, qui m'a contactée, qui m'a dit « Emma, est-ce que tu veux parler dans Le Monde ? On est en train de faire un papier. » J'ai pas hésité, j'ai dit « Mais oui, bien sûr. » Parce que c'est, pour moi, vraiment, c'est insupportable. Tout ce silence, toute cette omerta, c'est insupportable parce que je sais la souffrance que c'est. Je sais toutes les conséquences que ça a dans nos vies d'athlètes et dans nos vies de femmes. Et de me dire qu'il y en a qui vont continuer à porter ces fardeaux-là alors que on peut parler, en fait. Ça m'est insupportable. Donc, je me suis dit, moi, je vais parler, je vais faire de tout ça un combat. C'est pas possible autrement. Donc, on a fait ce papier-là. Je me suis dit, je vais m'en prendre plein la tronche. Ouais. Mais tant pis, j'allais dire tant mieux. Le rapport, ouais. On a l'habitude de souffrir et tout. Je vais m'en prendre plein la tronche et tant pis. Et au final... Le tant mieux, c'est que j'ai eu zéro retour négatif.
D'accord.
Enfin, c'est incroyable. J'ai posté ça sur les réseaux sociaux, sur Facebook, parce que j'étais plus sur Facebook à l'époque, sur Insta et tout. Et j'ai eu que des retours incroyables, quoi. J'ai eu peut-être un ou deux retours négatifs où on m'insultait et un autre retour d'une athlète de ce même coach qui disait que j'étais complètement folle et que j'inventais. Mais sinon, j'ai eu que des retours extraordinaires parce que ce mec-là, il avait quand même une certaine réputation, parce que je pense que les gens savent que je suis pas quelqu'un qui raconte n'importe quoi et puis pour avoir le courage de parler comme ça, on va pas raconter n'importe quoi, quoi.
Oui, finalement, il n'y a pas eu cette forme de « elle veut attirer l'attention sur elle » ou « voilà, elle fait ça pour se rendre intéressante » ou j'en sais rien, ce genre de choses qu'on peut dire potentiellement aux femmes qui sont victimes.
Pas du tout. C'est sûr que ça a dû être dit rien que dans le milieu de l'athlé, c'est sûr et certain. Je vois bien les encadrants qui ne sont pas de cette génération-là et tout dire « ouais, mais Emma raconte n'importe quoi, c'est une folle » et tout. Mais j'en ai rien à faire, je m'en fous. Du moment que ça a parlé aux principales intéressées, à savoir les victimes ou les potentielles futures victimes ou quoi, moi c'est tout ce qui m'importe, le reste je m'en fiche.
Toi, avec le recul maintenant, alors le recul finalement il est pas si grand non plus parce que c'est il y a quelques années, qu'est-ce qui reste là en toi finalement quand je t'écoute? Je me permets de d'émettre un jugement qui m'est propre, mais on a l'impression presque que la responsabilité elle est plus grande de la part de ton entraîneur de Fontainebleau de l'époque finalement que de ton agresseur. Ou en tout cas que les deux sont finalement liés, alors que c'est deux choses complètement différentes. Avec le recul, effectivement, toute la violence psychologique, est-ce qu'elle n'est pas presque plus importante que la violence physique? Comment ça se passe un peu dans ta tête tout ça?
Alors, c'est deux choses que j'arrive quand même à bien distinguer. C'est-à-dire que le coach national, lui, il est coupable. Il est coupable et ce qu'il a fait, c'est dégueulasse. Le coach de Fontainebleau, il a une part de responsabilité dans ce qui s'est passé, mais jamais de la vie, il n'est pas du tout coupable. Et je confonds absolument pas les deux. J'ai beaucoup souffert, oui, de la violence psychologique que j'ai subie quand j'étais à Fontainebleau, ça c'est clair et net. Après, ça m'a permis de me construire aussi et d'être celle que je suis aujourd'hui. C'est peut-être un petit peu bateau, mais c'est vrai, j'aurais jamais dû la subir, hein, cette violence-là. Mais voilà, elle fait partie de moi et heureusement j'ai réussi à m'en détacher.
Du coup, toi, est-ce que tu as remarqué quand même que ton expérience, que le fait d'en avoir parlé, ça avait fait écho à d'autres femmes, que ce soit dans le milieu de l'athlétisme ou pas d'ailleurs, et que y avait des similitudes, même si chaque histoire est différente, mais en tout cas avec d'autres femmes, d'autres sportives.
Ouais, totalement. Bah, dès que j'en parle sur les réseaux sociaux, j'ai toujours des retours. Il y a beaucoup de jeunes femmes qui viennent me parler en message Insta, par exemple, pour me dire moi j'ai vécu la même chose. Et je sais que en 2018 aussi, quand j'avais porté plainte et que ça s'était su, ce qui m'a énormément touchée, c'est qu'il y avait une femme, j'étais en service civique à l'époque, et il y avait une dame d'une cinquantaine d'années à peu près qui était venue me voir pour me dire franchement Emma, merci beaucoup, parce que moi à mon époque on pouvait pas en parler, moi j'ai subi des choses, j'ai jamais pu en parler, donc merci. Et il y a aussi un monsieur d'une cinquantaine d'années qui est dans le milieu de l'athlé aussi, qui est venu me voir les larmes aux yeux en me disant merci, parce que moi aussi j'ai subi des choses et la même chose à mon époque, on pouvait pas en parler, donc je suis restée avec ça, quoi. Et rien que ça, c'est magnifique. Enfin, c'est magnifique, c'est terrible.
Oui, c'est terrible,
mais c'est beau que en fait enfin ça sorte et que ça serve à des gens.
Toi, t'en as fait ton combat
totalement
maintenant. C'est vraiment quelque chose que tu portes à bras le corps. Bah, ça fait partie de toi aussi, donc forcément, c'est une empreinte qui est gravée à jamais, j'ai envie de dire. Et tu as envie vraiment de porter ce combat-là. Tu es en train de faire un documentaire, justement, sur les violences sexuelles dans le milieu du sport. Comment ça s'est passé? Comment, du coup, tu as aussi... est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce projet-là?
Il y a eu un moment, ça s'est fait un peu sur un coup de tête. Je me suis dit, franchement, j'ai trop envie de faire un documentaire là-dessus, il y aurait trop de choses à dire. Et j'ai posté une story sur Insta, j'ai dit, j'ai envie de faire un docu. Donc, s'il y a des jeunes femmes qui ont vécu des violences sexuelles dans le milieu de l'athlé, n'hésitez pas à me contacter. Ça a hyper bien fonctionné. Je me suis dit que ça prenait...
Malheureusement.
Malheureusement. Et heureusement, dans le sens où ça veut dire que les athlètes sont enfin prêtes à parler. Et donc, j'ai eu des retours. Il fallait que je finance le projet, donc j'ai mis une cagnotte en ligne qui a très bien fonctionné aussi, hyper rapidement, on atteint les objectifs. Et donc, je suis partie pour faire les différentes interviews. Et ce qui est hyper intéressant dans ces interviews, c'est qu'il y a énormément de choses qui sont communes entre les athlètes. D'accord. À savoir la mise en place des violences progressives, mmh. des violences psychologiques, des violences physiques, cette tendance à toujours vouloir en faire plus, en donner plus à l'entraînement qui floute les limites dont on a parlé, ouais. Dont on a parlé tout à l'heure. L'importance aussi de voir que les agresseurs dans le milieu de l'athlète, ça vient de partout, parce que il y a des athlètes qui sont cités dans ce documentaire, il y a des entraîneurs, il y a des présidents de clubs, et donc on voit que ça touche toutes les athlètes au niveau et niveau plutôt intermédiaire, voire niveau loisir, et que les agresseurs viennent malheureusement de partout.
Ouais. Tu disais que maintenant, la parole se libérait et que les jeunes femmes ou les femmes que tu as interviewées dans le documentaire n'hésitaient plus à parler. Alors, il y en a certaines qui sont visage découvert, d'autres non, pour des raisons qui leur sont propres. Comment t'expliques que ça a mis tellement de temps pour que ce soit un sujet qui soit pris en compte? Finalement, effectivement, ça fait que quelques dizaines d'années en fait que des personnes ou des femmes en l'occurrence ont dénoncé ces agressions sexuelles de façon publique. Comment t'expliques ça, que ça a été si compliqué, que ça a pris tellement de temps finalement pour qu'on libère la parole?
C'est hyper, hyper difficile. On peut citer Catherine Moyon-Debac, qui a, elle, décidé de porter plainte en 1991 par rapport à des faits de violence sexuelle qu'elle avait subis dans le cadre de l'équipe de France. Ouais. Et donc, le procès lui avait donné raison, d'ailleurs. Elle écrit un livre en 1997. Et en fait, ce qui est affolant, c'est de voir qu'en 25-30 ans, les choses n'ont pas trop
évolué,
bougé.
Ouais.
Ouais, n'ont pas trop évolué. Le courage qu'a eu cette femme, je tiens vraiment à le souligner, parce que pareil, on n'en entend pas assez parler. On entend beaucoup parler des sportives qui décident de parler aujourd'hui, et tant mieux.
Oui, bien sûr.
Mais il faut aussi rappeler qu'il y a des femmes déjà dans les années 90 qui ont eu ce courage-là. Et il y a 30 ans, je pense que pour parler de tout ça, c'était encore plus difficile. Mmh. Et donc, heureusement qu'il y a eu des précurseuses comme Catherine Moyon-Debac pour en parler et pour ouvrir la voie déjà à leur époque, comme une femme comme Sarah Abitbol aussi, et plein d'autres qui ont fait en sorte qu'on puisse parler aujourd'hui. Et je pense que ça prend du temps déjà pour les femmes de manière générale de parler des violences qu'elles subissent, et encore plus dans le monde du sport, parce que c'est un monde qui est hyper qui est à huis clos, qui est très fermé, parce que les conséquences, elles peuvent être très graves. Je veux dire, les sportives, elles peuvent perdre leur carrière, perdre leur coach, perdre tout leur repère, parce qu'on est habitué à la souffrance et à dédier notre corps à la performance et à l'autre. Donc, les limites et la prise de conscience de « oui, je suis en train de vivre une violence », elles sont hyper, hyper difficiles, quoi. Donc, tout ça explique une prise de parole qui est difficile et qui est lente.
Ce que tu dis là, ça me fait rebondir par rapport à ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, mais tu penses aussi que finalement, si on en parle moins, c'est parce que comme tu dis, il y a une très grande emprise psychologique en fait qui est opérée dans le milieu du sport. Les personnes s'en rendent moins compte aussi, et finalement, c'est même pas une non volonté de parler, mais finalement une incapacité à parler parce que on se rend pas compte de ce qui nous arrive.
Ah oui, absolument. Là, dans le documentaire que je fais, il y a une jeune femme, c'est hyper marquant. Elle met des années et des années et des années avant de se rendre compte de ce qu'elle a vécu. Mmh. Elle entend parler d'autres athlètes qui ont subi des violences de la part de son coach, et elle se dit, mais non, mais c'est n'importe quoi.
Ouais.
Voilà.
Mais elle est dans le rejet.
Ah, mais totalement. Elle est dans le déni complet. Elle est dans le déni. Et puis, c'est une manière aussi de se protéger, d'être dans le déni. Donc, c'est pas étonnant.
Ouais. Donc, c'est vraiment... Enfin, les mécanismes du sport sont hyper compliqués. En fait, finalement, quand on t'écoute, et je crois que c'est pas la première fois que je dis ça, mais il faut revoir tout le système sportif en France et ailleurs, parce que ça n'arrive pas qu'en France, malheureusement. Mais en fait, il faudrait revoir fondamentalement toute la structuration du sport.
Ah, mais totalement, faudrait déconstruire énormément de choses. Le problème, c'est que je pense que les personnes qui sont au sein de ces institutions n'ont pas grand-chose à gagner à déconstruire à ce point-là. Pour être honnête, je pense que... Tout ce système de performance, d'aller chercher des médailles, etc. C'est ça qui est mis au-dessus de tout. Mmh. Et donc, ça induit des systèmes et des comportements qui sont violents. Et donc, est-ce que ces personnes-là, est-ce que ces systèmes-là ont quelque chose à gagner à déconstruire ? Je ne suis pas certaine.
Je pense que c'est vraiment viscéralement ancré. Alors, mais c'est finalement une sorte de guerre d'ego ou de guerre de sa petite personne et de ne pas vouloir changer globalement pour ne pas que ça fasse bouger ou déboulonne certains membres des fédérations.
Je pense qu'il y a plein de choses qui l'expliquent. Déjà, dans la société dans laquelle on vit, qui est une société capitaliste, qui est une société qui est beaucoup portée sur l'individu, sur la compétition, la fédération ne fait que découler de cette société-là, et donc forcément elle est empreinte de ces mécanismes-là. Et en plus de ça, je pense que dans beaucoup de fédérations, c'est des milieux qui sont hyper, hyper masculins. Et on a une femme, elle s'appelle Béatrice Barbus, si je ne dis pas de bêtises. Donc, elle est dans le milieu du handball. Et elle, en fait, ce qu'elle explique dans son livre, et franchement, c'est une pépite, c'est « Du sexisme dans le sport ». Et c'est... Ah là là, j'ai adoré son livre. Et ce qu'elle explique, c'est que c'est vraiment aux femmes d'aller conquérir des droits, d'aller conquérir une écoute, parce que sinon elles sont pas écoutées, elles sont pas prises en considération. Et donc à partir du moment où les fédérations, les institutions seront en grande majorité composées d'hommes, il faut pas attendre des hommes que comme par magie ils nous délèguent des droits et ils acceptent qu'on fasse partie du décor. Je dis pas que tous sont de mauvaise volonté, c'est pas ça que je dis, mais je dis que ça, c'est vraiment aux femmes d'aller chercher leurs droits et d'aller poser les limites.
On le disait tout à l'heure, mais effectivement, là, sur les dernières années, que ce soit avec Sarah Abitbol, ça a fait beaucoup, beaucoup de bruit. Peut-être bien plus que les précédentes révélations qu'il y avait pu y avoir par le passé, parce que ça a généré derrière des gros scandales. Et justement aussi, à quel point, finalement, au sein même des fédérations, on pouvait étouffer toutes ces choses-là et à quel point c'était gangréné au sein même des fédérations. Ça a fait beaucoup de bruit. On a l'impression qu'à partir de ce moment-là, politiquement, ça a été pris en compte. C'est-à-dire que Roxana Maracineanu a aussi s'est dit « Bon, finalement, il faut faire quelque chose » et a avoué publiquement que finalement, il y avait une omerta aussi sur ces sujets-là. Est-ce que tu as l'impression aussi que maintenant que finalement, c'est pris en compte de façon politique, tu le disais tout à l'heure, que c'était pas un sujet finalement qui était politique, donc en fait on s'y intéressait finalement assez peu, que maintenant qu'il y a des choses, des dispositifs qui sont mis en place, en tout cas des cellules d'écoute, ça change les choses et que ça y est, on a moins peur aussi peut-être de s'exprimer sur ces sujets-là.
Moi, je pense que c'est vraiment beaucoup trop peu ce qui est mis en place. La ministre, ce qu'elle dit de manière publique, oui, c'est très bien. Mais sur ce qui est réellement mis en place sur le terrain, je pense que c'est beaucoup trop peu. Et ça va être à nous d'aller conquérir cette place-là et cet espace, des espaces pour qu'il y ait beaucoup plus de sensibilisation au niveau des clubs, pour qu'il y ait de l'éducation au niveau des athlètes, de ce qu'elles sont en droit d'accepter ou de pas accepter. Il faudrait aussi, je pense, faire en sorte qu'il y ait des cellules d'écoute, mais au sein même des fédérations, qu'il y ait des personnes dont c'est le métier, en fait, d'accueillir la parole. Enfin, il y a énormément de travail, et je pense que ce travail-là, on n'en est même pas à 1%, quoi.
Ouais. Tout le chemin est à faire.
Totalement.
Pour donner quelques... On parlait de chiffres tout à l'heure, mais là, au total, en gros, là, sur ces dernières années, hein, j'ai pas le... Il faudrait que je retrouve exactement, mais je crois que c'était sur l'année 2020-2022. 655 personnes sont mises en cause dans des faits d'agression sexuelle, donc 97% d'hommes, dans le cadre de 610 affaires au total, donc c'est énorme, concernant 54 fédérations. Donc là, c'est vrai qu'on parle, on est...
Toutes les fédérations.
De l'athlétisme, mais en fait, ça concerne absolument toutes les fédérations. Donc ça, c'est des chiffres qui dataient de fin décembre 2021, donc là, vraiment très récemment. Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, mais parmi les personnes qui sont mises en cause, il y a une représentation importante des éducateurs sportifs, mais pas que, ça c'est 60%. Et 90% des affaires concernent des faits à connotation sexuelle, 10% étant des faits de violence physique ou psychologique. et 80% concernent des personnes de sexe féminin. Donc on voit que les agresseurs sont majoritairement... Alors là, c'est des chiffres, hein, donc je veux dire, je ne peux pas... voilà, 97% sont des agresseurs masculins et 80% des victimes sont des femmes. Alors, il y a 20% d'hommes aussi. D'ailleurs, c'est précisé que les garçons qui sont victimes le sont très jeunes, à moins de 15 ans. Donc c'est, quand on voit ces chiffres-là, on se dit que c'est catastrophique.
Oui, c'est catastrophique.
Et qu'effectivement, il y a encore beaucoup de choses à faire.
Oui, il y a énormément de travail, il y a beaucoup de signalements, c'est sûr, mais je pense que si toutes les personnes qui étaient victimes signalaient, mais ce serait un chiffre
démentiel.
Encore plus important. Et je sais aussi qu'il y avait le ministère des Sports qui avait demandé un rapport justement sur tout ce qui était les violences sexuelles dans le milieu. Je ne sais plus si c'est violence tout court ou violence sexuelle dans le milieu du sport. Mmh. Et si je ne dis pas de bêtises, c'était en 2014. Ce rapport n'est jamais sorti.
D'accord.
Donc il a été fait, mais
il a été fait.
Ah ouais, il a été fait. Le rapport a été fait, mais il a été mis à la poubelle, quoi. Et on n'a jamais, il y a jamais, bah parce que je pense que les chiffres.
C'était affligeant.
Je pense que c'est tellement affligeant qu'il y aurait, il devrait y avoir une politique de mise en place. Qui dit politique mise en place dit argent, etc., etc. Mmh. Et il n'y a pas de, je pense qu'il n'y a pas encore de réelle volonté politique.
Oui, tu penses que ça allait en fait finalement. Est tellement violent
ouais.
Politiquement et ouais. Pour le ministère, finalement, ouais. Qu'ils ont préféré étouffer ça plutôt que de le rendre public.
Totalement. Alors, est-ce que maintenant, en 2022, si ce rapport était fait maintenant, est-ce qu'il sortirait peut-être? Mais je ne compte pas, malheureusement, sur les politiques pour faire changer les choses. Ouais. Je compte vraiment sur une dynamique... Une initiative qui vient en plus de chez nous, quoi, du monde du sport, du monde du sport lui-même. Et j'espère de tout cœur que ce documentaire va y participer. J'espère vraiment qu'en fait, ça va faire péter beaucoup de choses. Je pense vraiment qu'on doit faire péter beaucoup de choses. Le truc un peu politiquement correct de « oui, machin, il faut faire évoluer les mentalités par l'éducation et tout. » Ok, d'accord, bien sûr. Mais je pense que c'est... à nous aussi de vraiment d'y aller et de se battre, quoi. On est obligé parce que sinon on sera jamais écouté.
Justement, quel est toi le message que tu as envie de faire passer à ces femmes ou ces hommes qui ont été victimes de violences psychologiques, physiques, sexuelles, qui sont peut-être encore potentiellement en carrière? Alors là, je parle à niveau amateur ou professionnel. Je pense plus particulièrement au niveau professionnel parce que ça engendre aussi derrière parler peut-être beaucoup de conséquences. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire et voilà. Enfin, est-ce que tu as envie de leur dire mais qu'il faut parler?
Déjà, j'ai envie de leur dire que ces personnes ne sont pas toutes seules. Il y a malheureusement énormément de monde qui souffre de la même chose qu'eux et qu'elles. Et qu'il faut en parler, oui, mais déjà à leur cercle proche, quoi. Qu'il faut pas rester avec cette souffrance-là parce que c'est quelque chose qui n'est absolument pas normal, qui est absolument terrible à vivre. Donc, en parler à des personnes de confiance le plus possible. Et bien sûr que je ne peux que les pousser à parler de manière publique parce que ça permet de faire vivre cette cause-là, de la porter le plus haut possible et de faire en sorte que ça puisse aider le maximum de monde. Mais j'ai pas envie d'être moralisatrice ou culpabilisatrice par rapport à ces gens-là. Déjà qu'ils en parlent, eux, dans leur cercle proche. Et après, s'ils s'en sentent le courage, bien sûr, de porter ces sujets de manière publique.
Et quelles sont les prochaines étapes qu'il faudrait mettre en place, selon toi, pour vraiment fondamentalement faire bouger les choses?
Je pense que les réseaux sociaux vont être déterminants dans la prise de conscience et dans cette lutte, dans ce combat. Par exemple, un documentaire comme moi, ce que je peux faire, le fait d'en parler. J'ai vu que Stella Kakpo aussi avait sorti son média là, sur le sport féminin. Donc j'espère que ça va aider. Ton podcast, ça aide aussi. Je pense que les prochaines étapes, ça va être de prendre de la place, le maximum de place. J'espère qu'ensuite, ça arrivera dans les médias. Des médias un peu plus mainstream pour que ça prenne de la place dans le débat public. Et après, La dernière étape, ce serait la politique, mais une vraie politique de mise en place de vraies décisions pour que ça aide. Donc, je vois un peu les choses comme ça. Et je pense que ce qui va se passer dans le milieu du sport, ça va pouvoir aider dans plein d'autres milieux aussi, parce que, bah, on le voit, les violences, elles sont absolument partout. Je pense qu'elles sont vraiment exacerbées dans le milieu du sport. Mais il y a des milieux comme le milieu du cinéma, comme le milieu de la politique lui-même. Enfin, vraiment, dans tous les milieux professionnels ou privés, les violences sont partout. Et donc, j'espère que le fait d'agir sur le plan sportif va permettre comme ça d'agir sur plein d'autres, dans plein d'autres domaines.
Et quels seraient les conseils aussi pour les personnes qui peut-être n'ont dans un premier temps pas envie de parler, qui sont en souffrance psychologique? Est-ce que tu conseillerais de se faire accompagner? Enfin voilà, toi tu disais tout à l'heure effectivement que tu avais fait une dépression aussi suite à tout ça. Comment toi tu as pu te reconstruire face à ça?
Alors les violences psychologiques, pareil, c'est pas quelque chose de normal. Que le coach dise que t'es une merde, c'est pas normal. Que un coach te fasse du chantage affectif, c'est pas normal. Qu'il te parle de ton poids, c'est pas normal. Il y a plein de choses qui ne sont pas normales. Donc déjà se rendre compte de ça. Et oui, ne pas hésiter à demander de l'aide auprès du médical, donc une aide thérapeutique. Je pense que c'est hyper important. Ne pas hésiter à s'entourer au maximum et d'en parler, en parler, parce que le fait d'en parler, le fait de le sortir, ça le rend réel. Et donc pour le combattre et pour soigner tout simplement, et ben c'est nécessaire.
C'est important. Je pense qu'il faut le dire, et que ce message aussi, j'imagine, s'il y a des sportifs qui écoutent ce podcast et qui se retrouvent dans tes mots, et voilà, leur donner aussi des solutions, ou peut-être des chemins pour leur permettre de se sentir mieux. Et merci à toi en tout cas de parler de ça et d'en faire un sujet comme un autre, j'ai envie de dire, aussi de le banaliser, parce que c'est important, et c'est en banalisant les choses, même si c'est bien évidemment très grave, attention, on minimise pas, on banalise, c'est différent. Pour que les gens puissent prendre conscience qu'effectivement il y a un problème, et que c'est pas non plus quelque chose qu'on peut aller mieux, et qu'on peut combattre ça aussi, et que c'est pas comme ça, et qu'on peut rien y faire, et que c'est important qu'on puisse faire changer les choses.
C'est vrai que jusqu'à maintenant, par exemple, pour les victimes de violences sexuelles, on voit beaucoup à la télé, les personnes qui vont être médiatisées, c'est des gens qui sont encore hyper en souffrance, qui sont encore hyper, j'ai l'impression, dans un syndrome post-traumatique, qui sont très traumatisés, et en fait, on a l'impression que c'est la double peine, c'est-à-dire que on vit une première violence, et après c'est comme si on était condamné à vie à juste être une victime. Mais j'ai envie de dire que non, bien sûr que ça prend du temps, bien sûr que c'est terrible et qu'il faut pas minimiser ce qui s'est passé, mais on peut aussi s'en sortir, et on peut aussi renaître de tout ce qui s'est passé, et ça c'est hyper important de le souligner.
Et en faire un combat aussi.
Oui,
parce
exactement.
C'est du coup ce que toi, tu as décidé aussi. Finalement, tu te sers de cette énergie maintenant pour aider les autres et pour en faire quelque chose de positif.
Ah ouais, totalement. Et j'espère que quelque chose de grand, et qui servira à énormément de monde.
Mais écoute, je te le souhaite. Et effectivement, je ne peux que souhaiter que la parole continue de se libérer de plus en plus sur ce sujet-là. Et que ça devienne des faits rares, voire inexistants, dans le meilleur du monde, des mondes. Mais et voilà, et qu'on aille vers une pratique du sport beaucoup plus saine que ce que ça n'est à l'heure actuelle.
J'espère, j'espère de tout cœur.
Ma dernière petite question, forcément, je vais te poser cette question-là parce que c'est la question mythique du podcast. Si tu devais donner une définition au mot championne, qu'est-ce que tu dirais?
Je dirais qu'une championne, je pense que déjà toutes les femmes sont des championnes, parce que pour vivre dans cette société, pour survivre dans cette société, faut être une championne. Je pense que c'est quelqu'un, c'est une femme qui est courageuse, qui est déterminée, même si elle peut être au plus bas du bas, même si elle peut connaître des moments terribles, et ben elle continue en fait. Elle continue malgré tout. Et je pense que c'est une femme qui fait preuve aussi de sororité avec les autres femmes. Pour moi, c'est ça, une vraie championne.
Eh ben, merci beaucoup, Emma.
Merci à toi,
Cléo. Merci pour ton témoignage. Merci pour tout ça, et merci pour ce que tu fais. C'est important et je suis persuadée que c'est grâce à des personnes comme toi que ça fera évoluer les choses.
Merci beaucoup.
Donc merci, écoute, et bonne continuation et beaucoup de succès à ton documentaire.
Merci beaucoup Cléo.
Salut Emma.
Salut.
Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Championne du Monde sur les plateformes d'écoute et à nous laisser commentaires et étoiles sur Apple Podcasts. Et rejoignez-nous sur Instagram pour plus de news et infos sur le sport au féminin. À bientôt!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.